se dit-il. Peut-être ce travail avait-il été fait rapidement, sur un coin de table. Peut-être aussi cette idée des limites cantonales n'était-elle pas absurde. Un autre exemple de mes jugements hâtifs, se dit-il. L'atlas de Brugère était bien commode, qui portait la signature d'Artem Feillard. Il indiquait les distances entre les petits bourgs et les lignes de desserte locales, les productions et les trésors du département, et tout ce dont le voyageur avait besoin. Et Augustin, où en était-il à la pitié succédant au pauvre fou? À lui la chair, à moi l'esprit, quand on voit ce que nous en faisons. Klein s'étonnait de voir son ami s'occuper si durement. Mon divertissement à moi est moins gratuit, pensait-il. Jamais il n'en avait parlé. Klein regretta de ne pas lui avoir proposé de venir marcher avec lui, mais peut-être Augustin arpentait-il les chemins du Berry. Un instant, Klein fut jaloux de ce pays inconnu. Ce serait dommage qu'on nous le prenne, notre Augustin. Il se reprit. Mais ni rien ni personne ne le prendront jamais. C'est bien son drame, d'ailleurs. Le train du chemin de fer de l'État approchait de Baccara. Comme d'habitude, Klein se proposait de faire la route à pied, en franchissant la frontière au nord de la haie des Allemands. Il descendit du wagon dans la dernière gare française, un peu après midi. C'était une sorte de maison de poupée, mais les rails menaient vers une terre étrangère. Il lui faudrait bien 3 jours pour gagner Niederbronn. Il se souvint d'avoir vu dans le Brugère que les habitants de cette région parlaient un patois proche du latin. Chez lui, plus au nord, c'était un dialecte bas-allemand. Il se mit en route pour Badonviller et le col du Donon, inquiet comme chaque fois de la souplesse de ses souliers ferrés, car il avait les pieds fragiles. En lisière de la ville, des bûcherons attablés devant d'énormes bocs de bière le regardèrent sans s'étonner. Ils étaient nombreux à cette époque, les Français qui préféraient gagner l'Alsace par la forêt, surtout d'anciens officiers d'origine alsacienne, auxquels l'accès de la terre d'Empire était interdit. C'était juste avant la Toussaint. Là-bas, en cette saison, le froid tombe vers 4 heures. Klein ne s'en souciait pas. À présent, il entrait dans la forêt où il dormirait ce soir en écoutant les bêtes. Les émotions, les inquiétudes naissaient et disparaissaient au rythme régulier de son pas, mais amplifiées par le silence des longs couloirs de sapins, suffisamment intense pour faire battre son cœur. Sur le bord du chemin, à près de 1000 mètres d'altitude, peu avant le col, il aperçut le poteau frontière, un mât blanc surmonté d'un grand écusson aux couleurs noir, blanc, rouge et frappé de l'aigle germanique. Plus loin les routes se séparaient. Vers l'ouest, l'une conduisait à Siret en France. Celle de les menait à Oberaslach. Il prit plein nord dans la direction de Wasilon. Enfin la nuit tomba. Le lendemain il pleuvait. C'était une pluie fine, insaisissable. Elle ne cessa pas durant plusieurs jours. Elle avait éteint son feu, et de part et d'autre du talus où il avait dormi, tracé de petites rigoles descendant vers les fossés de la route en contrebas. Il se remit en marche. Par une trouée dans les arbres, il découvrit la montagne verte et grise sous un ciel plombé, et au-dessus la plaine coupée de vignes et de haies. Le temps passait sans qu'il s'en aperçût. Il marchait sans penser à rien, ouvert à ce paysage qui n'avait pas entièrement disparu de sa vie. La fatigue même tardait à venir. Il contourna Saverne par le nord. Puis, Dinguier, où il dormit dans une grange, il reprit le chemin de Niederbronn. Il aurait donc mieux connu ce pays après l'annexion, et sans état d'âme, simplement parce qu'il avait longtemps désiré voir plus loin que le faubourg Saint-Jacques, et que cette terre était la sienne à ce qu'on lui avait dit. Il aurait pu connaître mieux la Kabylie où vivaient désormais ses parents, et où il avait passé ses premières années, mais le goût pour ce qu'on n'a pas choisi le poussait vers l'Alsace. La France avait pris l'Algérie, abandonné l'Alsace. C'était bien suffisant pour le jeter sur les routes, chaque année après l'automne. Il lui importait peu que l'Allemagne eût tort ou raison. C'était cet interdit jeté sur son passé qui faisait lever en lui le désir de reconnaître les lieux. Il savait bien pourtant qu'il les verrait toujours déformés par les souvenirs familiaux, et que ces souvenirs à lui n'auraient jamais, par conséquent, la fraîcheur et la ténacité des vrais souvenirs, sans non plus que les objets de ces souvenirs lui fussent totalement étrangers. Ainsi pénétrait-il chaque fois dans un univers de rêve, qui était le sien sans lettre, le sien par procuration, un univers conditionnel. C'était l'école de Niederbronn, non pas une école comme les autres, et pas non plus celle où il avait subi les longues heures de l'enfance, mais celle où il aurait pu grandir. Et cet instituteur tué par les Uhlans quelques années avant sa naissance était bien celui qui aurait dû lui apprendre la grammaire si le cours des choses n'avait pas été dévié. Ce n'était ni son maître ni n'importe lequel des maîtres. À la vérité, si à plus de 30 ans il revenait en Alsace avec la simplicité d'un apprenti, c'était bien pour cette raison que l'Alsace lui donnait, par un caprice de l'histoire, un aperçu du paradis. L'Alsace lui était donnée et refusée à la fois. Il n'avait ni à la renier ni à la supporter. Sa liberté restait entière. En fait, c'était un paradis à la porte entr'ouverte, duquel on pouvait même sortir. La dernière guerre avait commencé là, à l'entrée de cette ville d'eau. Une plaque indiquait l'endroit de la mort du premier tué français, le maréchal des logis Ferréol Panier, et du premier tué allemand, le sous-lieutenant Herbert von Winslow. En longeant ce mur jaune vers la synagogue, Klein sourit de cette opposition des noms dans leur consonance, des grades et des états. Une opposition de caricature. Il se représenta les nations comme des enfants d'une classe, chacun enfermé dans ses manies, bien plus différent de tous les autres que les hommes entre eux ne le seront plus tard. Il se souvint d'Alcossé, cet animal devenu aveugle, et qui lui avait dit plusieurs choses exactes.